l'Église comme colonne qui proclame et qui soutient la vérité. C'est ce qu'on va approfondir maintenant en méditant la fin de l'évangile de Matthieu. Quelques mots pour que vous puissiez comprendre le contexte de cette fin. Eh bien, Jésus est mort et il est ressuscité. Il n'y a plus que 11 disciples, car le 12e Judas, qui a trahi Jésus, s'est donné la mort. Et les 11 disciples vont rencontrer Jésus ressuscité et ça va transformer leur vie. Et c'est ça que nous lisons. C'est la rencontre entre Jésus et ses 11 disciples alors qu'il est ressuscité que nous lisons. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Jésus-Christ est ressuscité. Ses disciples, ses 11 disciples le voient vivant après sa mort. Et parce qu'ils le voient vivant, justement, parce que Jésus est ressuscité, les disciples, eh bien, premier point, vont le reconnaître comme roi. C'est la première des choses qui se passe, hein, verset 17. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Ils adorèrent Jésus. Ils le reconnaissent comme le roi. Ils reconnaissent à Jésus l'autorité qui est la sienne. Il est leur roi, il est leur Dieu. Et ce n'est pas franchement une nouveauté. Dans l'évangile de Matthieu, à plusieurs reprises, Jésus s'est présenté comme roi. Mais maintenant, sur la montagne, eh bien, les disciples le comprennent véritablement. Il est le roi. Il est le roi qui est parti à la guerre et qui est revenu victorieux de la guerre. La guerre contre la mort, qu'il a vaincue. Il est revenu d'entre les morts. La guerre contre le mal. Il a payé pour tout le mal que nous avons fait. Et donc, eh bien, les disciples, en adorant Jésus, en se prosternant devant lui, ils le reconnaissent comme le roi légitime, le roi guerrier qui revient de la guerre et qui a gagné. Et il est vivant encore aujourd'hui, c'est toujours valable pour nous. Il est notre roi et notre Dieu aussi. Pour vous donner un peu une comparaison, pour essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là dans l'histoire des disciples, je ne sais pas si vous avez vu le film Kung Fu Panda. Est-ce que... J'ai besoin d'expliquer beaucoup, il y en a beaucoup qui l'ont vu. Ok, d'accord. Ça, c'est le héros dans Kung Fu Panda. Il s'appelle Po. Et dans Kung Fu Panda, il y a un grand méchant. Il s'appelle Tai Lung. Et Tai Lung, il menace en fait la paix dans le village. Et Po va partir en guerre. Exactement comme Jésus va partir en guerre contre la mort et le mal, Po va partir en guerre contre le méchant Tai Lung. Et au moment où Po part en guerre, il n'y a personne qui donne cher de sa peau, hein. Personne qui croit en lui. Mais à la fin, quand il revient victorieux, quand il a gagné contre Tai Lung, eh ben, que font ses amis? Ils se prosternent devant lui. Ils le reconnaissent comme le guerrier dragon, le gars qui a réussi à gagner contre le méchant Tai Lung. Et alors, je vais projeter les images de quand il revient victorieux. Donc vous voyez, il y a toute une foule au village qui est là pour l'attendre. Ils ne sont pas 11, ils sont bien plus nombreux. Et regardez le geste qu'ils font quand il arrive, Po. Alors il semblerait que ce soit un geste de ninja, moi j'y connais rien, j'ai aucun kung-fu. Visiblement, comme ça veut dire respect. Voilà. Eh bien, il faut s'imaginer que c'est un peu pareil. Jésus est parti en guerre contre le mal et la mort. Il est revenu victorieux. Et les 11 qui assistent, qui le voient vivant, victorieux, eh bien... La première des choses qu'ils font, ils l'adorent, se prosternent devant lui. Je vous le relis, hein. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Je me suis dit que cette réaction, elle était assez impressionnante aussi, assez riche de sens. On aurait pu s'attendre à ce qu'il lui saute au cou. « Ouhou, t'es vivant !» Mais c'est pas du tout ce qu'ils font, hein. Crainte, respect devant le roi qui a vaincu la mort. juste réaction face à quelqu'un qui a vaincu la mort. Et puis Jésus, il leur dit pas, écoutez les gars, non, relevez-vous, ce n'est que moi, il n'y a rien de grave. Non, qu'est-ce qu'il leur dit Jésus? Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Ça rigole un peu moins là. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Et ça, eh bien, c'est une véritable déclaration royale de la part de Jésus. Il se présente comme, eh bien oui, comme le roi légitime de l'humanité entière, pas seulement des Juifs. Il n'est pas seulement non plus le roi légitime de ceux qui croient en lui, il est aussi le roi de ceux qui ne croient pas en lui. Et un jour, ça sera manifeste aux yeux de tous. Il jugera l'humanité entière. Il est Dieu fait homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard, de dire Jésus est roi ou Jésus est Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Techniquement, c'est assez flippant. Ça veut dire que eh bien, Jésus a des droits sur ma vie entière. Ça veut dire qu'il est propriétaire de mon être, que je lui dois obéissance, sans condition. Et c'est vrai que dire ça comme ça, c'est vraiment choquant dans notre monde aujourd'hui. Un monde qui prône la liberté individuelle, qu'on peut tous faire ce qu'on veut. Et là, tout d'un coup, on apprend que ben non, y a Jésus qui a des droits sur nous, des revendications. Mais si c'est choquant de dire ça, c'est parce que le monde ne reconnaît pas Jésus comme son roi. Et nous, les chrétiens qui reconnaissons Jésus comme notre roi, est-ce qu'on y arrive toujours à le reconnaître comme notre roi? Combien de fois on rate de reconnaître Jésus comme notre roi? C'est ça que la Bible appelle le péché, lorsqu'on se rebelle contre Dieu, contre son autorité dans notre vie. Heureusement que nous avons un Dieu qui est patient, un Dieu qui nous pardonne nos fautes régulièrement, dès qu'on le lui demande. Et ce Dieu invite encore à chaque instant des hommes et des femmes du monde entier à revenir à lui. Il nous invite ce matin à revenir à lui, à nous détourner à nouveau de nos fautes, de ce que nous savons être mal, et à lui faire confiance. Il nous invite à adorer Jésus comme notre roi. Les disciples le reconnaissent comme roi. Est-ce que vous prenez des bonnes résolutions en début d'année? Vous avez essayé? Ça tient combien de temps, honnêtement? Qui arrive à faire tenir des résolutions un mois? Ok. Quelques semaines? Un jour? Deux jours? Il faut être réaliste, hein? Pourtant, il y a quelque chose de vrai, c'est qu'on est des êtres d'habitude. Les habitudes sont bonnes pour nous. On est ainsi fait, notre cerveau est ainsi fait qu'on a besoin d'habitudes pour ne pas être perdu dans notre vie. Et il est important que nous développions de bonnes habitudes. L'adoration, c'est une de ces bonnes habitudes qu'il nous faut apprendre à développer. Si nous nous rassemblons les dimanches matins, mais aussi en semaine, ici à l'église ou dans les maisons, dans d'autres occasions, eh bien, c'est parce que nous avons besoin d'adorer Dieu. Nous avons besoin de nous recentrer sur lui régulièrement. Nous avons besoin de revenir à lui. Et c'est vrai que quand on est réunis ensemble, eh bien, on expérimente plus facilement que quand on est seul sa paix, sa joie, la joie qu'il y a à être en sa présence. Et lorsqu'on étudie sa parole, lorsqu'on adore Christ comme roi, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous vous rendez compte que vos idoles, les idoles contre lesquelles vous luttez dans votre vie, eh bien, quand vous adorez Jésus, quand on est ensemble, les idoles, elles deviennent fades tout d'un coup. C'est vachement important de se réunir pour adorer Dieu ensemble. Parce que tout ce qui me tire vers le bas devient fade en présence de Dieu et lorsqu'on l'adore. Voilà donc, vous comprenez l'importance de l'Église. Dieu n'a pas voulu que nous soyons des chrétiens seuls. On n'est pas seuls. Il nous a mis ensemble en Église pour qu'on puisse se soutenir mutuellement et aussi que nos idoles diminuent, pour que lui grandisse. Adorons Christ, notre roi. Mais les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus ressuscité, ils n'ont pas fait que le reconnaître comme roi. Certains ont eu des problèmes. Il est dit que certains eurent des doutes. Mais ils vont surmonter ces doutes. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vous relis le passage, hein. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. C'est hyper important pour nous cette mention du doute. Je ne sais pas si vous doutez, vous, dans la vie. Il me semble que Matthieu, ici, il a pensé à nous lorsqu'il a écrit les doutes de certains disciples. Il a pensé à nous qui n'avons pas vu Jésus ressuscité. Parce que des doutes, on en a. Est-ce que justement Jésus est bien ressuscité? Est-ce qu'il a bien vaincu la mort? Et c'est vrai, je ne sais pas parfois si vous ressentez cette angoisse en vous, en vous demandant si vous ne vous êtes pas planté en étant chrétien. Et si je m'étais planté? Est-ce que ça veut dire que toute ma vie, un pan de ma vie, voire toute ma vie, s'effrite? Et là, eh bien, je trouve ça hyper réconfortant de voir avec quelle simplicité et avec quelle honnêteté Matthieu reconnaît les doutes des disciples, de certains disciples qui étaient présents ce jour-là. Ils ont vu Jésus ressuscité, et pourtant, certains eurent des doutes. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus, pour ne pas les laisser en proie avec leurs doutes? Eh bien, Jésus, il leur confie une mission. Il les envoie de par le monde. Et là, je voudrais dire que cet envoi à travers le monde, il est, d'une certaine façon, valable pour nous aussi. Si vous doutez que Dieu existe, si vous doutez de la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, c'est là que c'est paradoxal. Mettez-vous à son service et vous n'aurez plus aucun doute. Vos doutes vont être balayés, doutes balayés au service de Dieu. Jésus, il répond aux doutes de ses disciples en les envoyant de par le monde. Le meilleur moyen de sortir du doute, c'est non pas de rester à l'écart pour essayer de résoudre les problèmes abstraits auxquels on est confronté. Le meilleur moyen de résoudre nos doutes, c'est d'être envoyé par Jésus. Je vois que la colonne est tombée, ok. Pour une colonne censée soutenir, on est mal. Je voudrais vous donner un exemple. Il y a 4 ans, j'ai participé à une semaine avec une association chrétienne qui s'appelle OM, Opération Mobilisation. Je suppose que certains d'entre vous connaissent. On a fait des trucs, on est vraiment sortis de notre zone de confort, on a fait des trucs de dingue. On est descendu dans la rue pour parler de Jésus à des gens. Certains n'ont pas voulu entendre, d'autres se sont arrêtés pour écouter. Et puis, on a distribué aussi des invitations pour une soirée un peu spéciale qu'on avait préparée. Certains sont venus à cette soirée, c'était chouette. On a pu leur parler de Jésus, là encore. Et je me souviens d'un Hollandais qui s'appelait Richard. Et ce Richard, j'oublie de préciser que quand, vous doutez bien que quand on s'inscrit à une telle semaine avec Opération Mobilisation, c'est qu'on est, on est à bloc, quoi. On est remonté à bloc pour le Seigneur et qu'on en veut. Et en fait, Richard, c'était le contraire. Il s'était inscrit à cette semaine parce qu'il voulait des arguments pour arrêter d'être chrétien. Il était convaincu que ça allait être un bide complet, un flop, qu'il n'allait rien se passer et qu'il allait pouvoir rentrer chez lui et dire « Ah ben, vous voyez, tout ça, c'est tout ce qu'on m'a raconté depuis que je suis jeune, c'est pipeau et je ne crois plus en rien. » Et en fait, il s'est passé le contraire de ses attentes. Il a été tellement encouragé pendant cette semaine avec Opération Mobilisation, qu'en fait, il a arrêté son travail, il fait des études de théologie maintenant à Louvain, et devinez quoi, il apprend le français, il veut devenir missionnaire en France. Donc peut-être qu'un jour, vous recroiserez, si vous croisez un Richard qui est hollandais, pensez à lui, c'est peut-être lui. Okay, je ne sais pas si vous avez des doutes, je ne vous raconte pas la dose de doute qui a été la mienne quand j'ai arrêté mon travail pour devenir pasteur. Est-ce que Dieu existe ? Est-ce que Christ existe vraiment? Est-ce qu'il est vraiment mort sur la croix pour mes péchés? Est-ce que je suis vraiment sauvé, pardonné par Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit agit vraiment en moi? Est-ce qu'il me transforme véritablement ou est-ce que pas? Est-ce que Christ est toujours vivant? Est-ce qu'il est vraiment aussi puissant qu'on le dit? Est-ce qu'il peut changer une vie? Eh bien, je vous garantis que depuis 7 ans que je suis engagé dans cette mission, au début, je ne voulais pas y aller. Hein. Mais en fait... Ce texte, il a raison. Hein. Jésus a raison quand il balaye le doute de ses disciples en les envoyant de par le monde. Faites des choses pour Dieu et vos doutes vont disparaître. Vos doutes vont disparaître. Pourquoi? Ben parce que vous verrez Dieu à l'œuvre. Dieu à l'œuvre, ne serait-ce que dans votre vie, mais aussi dans la vie des autres auxquels vous serez confrontés. Et la troisième des choses donc, que font les disciples une fois qu'ils ont vu Jésus ressuscité, c'est qu'ils deviennent ses témoins. Ce changement-là, il est important dans l'évangile de Matthieu. Parce qu'avant, les disciples ne sont pas des témoins. Avant, ce sont juste des gens qui suivent. C'est ça que ça veut dire, disciples. Des gens qui suivent Jésus. Des gens qui se baladaient derrière lui, partout, en Galilée, en Judée, en Samarie, qui le suivaient. Mais à partir du moment où Jésus est mort, ressuscité, et qu'il va remonter au ciel, les disciples, à la rigueur, même ce nom ne veut plus rien dire, ils ne suivent plus personne. Ils sont les témoins de Jésus, à partir de ce moment-là. Lorsqu'on assiste à quelque chose de spécial, c'est naturel d'avoir envie de le raconter haut et fort, ce qui nous est arrivé. Par exemple, aujourd'hui, on prend une photo avec son téléphone portable et puis on la met sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram pour montrer ce qu'on a vécu aux autres. Par exemple, pour toutes les bonnes nouvelles, c'est ce qu'on fait. Hein. La preuve cette semaine. J'ai appris que Victoria avait eu son code de la route. Bonne nouvelle, bravo Victoria. J'ai appris que Victoria avait eu son code de la route sur le compte Facebook de sa maman, Anne-Edith. Vous voyez, on peut annoncer des bonnes nouvelles. Mais est-ce que ça ne devrait pas être d'autant plus vrai pour cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus ? Il a vaincu la mort. Il est mort pour nos fautes. On est libéré de notre culpabilité grâce à lui. On est en paix avec Dieu grâce à lui. Comment ne pas en parler ? Eh bien, peut-être qu'il faut tout simplement retrouver cet émerveillement face à une bonne nouvelle. Quand il y a une naissance, quand il y a un mariage dans une famille, on en parle, on ne va pas le taire. Pourquoi est-ce qu'on tairait la victoire de Christ ? On ne peut pas la taire. Alors, on n'a pas vu le ressuscité de nos propres yeux, mais ce dont on bénéficie, c'est de la Bible. Tout le Nouveau Testament, c'est le témoignage des disciples, ceux qui ont vu, les apôtres qui ont vu Jésus ressuscité après sa mort. Et c'est sur ce témoignage-là que nous pouvons baser notre vie et notre vie de témoignage à nous aussi. Alors cette mission que Jésus a confiée à ses disciples, elle est donc encore la nôtre. Quand il dit « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Parce que trop souvent, quand on pense à la résurrection de Jésus, on pense à une fin heureuse. Mais en fait, ce n'est pas une fin heureuse, c'est un début heureux pour l'Église. C'est un début. Faire connaître à tous cette grande nouvelle. Alors, on est envoyé pour faire quoi ? Pour faire des disciples. En fait, faire des disciples, c'est même le verbe principal. On pense souvent que c'est aller, et qu'après, aller pour faire trois choses. En fait, non, c'est faites des disciples, et comment ? En allant, en baptisant, et en, c'est quoi le dernier ? Merci. En enseignant à obéir. Voilà, c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, le cœur de cet envoi, c'est de faire des disciples. Faites des disciples en allant. On est envoyé pour baptiser aussi. Être baptisé, c'est reconnaître publiquement Jésus, comme son roi, justement, comme son sauveur et son roi. Et on est envoyé pour enseigner ceux qui sont devenus disciples afin qu'ils obéissent à Jésus. Et là, on a quand même un problème avec le texte, parce qu'on n'est pas juste... Enseigner quelqu'un, on s'imagine tous le faire, on a tous eu des profs dans la vie, enseigner quelqu'un, on peut faire. Mais Jésus dit qu'il faut qu'on enseigne les autres à obéir. Vous avez déjà essayé avec vos enfants de leur enseigner à obéir, honnêtement ? Là, on a un gros problème. C'est pas possible, en fait. Techniquement, c'est pas possible d'enseigner quelqu'un à obéir. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend pas de nous. Comment faire alors ? Comment faire ? Eh bien, Jésus nous donne la solution, mais par deux de ses paroles dans le passage qu'on a vu ensemble. Comment faire des disciples ? Comment enseigner à obéir ? Voilà les deux promesses que Jésus nous donne, qui rendent possible cet enseignement à obéir. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et là, on se dit ben, si Jésus a reçu tout pouvoir, alors ça ne peut pas être un échec, cet envoi. Il envoie avec la puissance pour le faire. La puissance n'est pas en nous. La puissance, c'est lui qui l'a. C'est lui qui va transformer le cœur des gens quand ils seront mis au contact de sa parole. Quand ils vont entendre parler de Jésus-Christ, certaines personnes vont réagir, vont comprendre et vont avoir envie de le suivre. Et ça ne dépend pas de nous. C'est parce que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, au ciel et sur la terre. C'est lui qui suscite aussi des occasions de témoignage. Sa parole ne reste pas sans effet. Et puis la deuxième promesse que Jésus a laissée. Moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, à chaque instant. À chaque instant donc, c'est bien Jésus qui nous aide à obéir, qui nous aide à accomplir, qui nous aide à remplir cette mission. Nous, on a juste besoin d'être disponibles pour lui. Alors, peut-être que je sens déjà aussi l'argument que ce n'est pas pour vous parce que vous n'êtes pas éloquent. Vous n'êtes pas des grands évangélistes. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas la parole facile. Eh bien, ouais, c'est vrai. On n'est pas tous des évangélistes doués et éloquents. Je dirais qu'on est quand même tous des enfants de Dieu. On est sauvés pour sa gloire. Et si on aime Dieu, si on aime Dieu véritablement, on va vouloir que son royaume progresse, si on aime Dieu. Et quand Jésus nous demande de faire des disciples, en fait, là, on se rend compte qu'il n'y a plus rien de très compliqué, c'est juste aimer ceux qui nous sont confiés, aimer nos amis. Parce que quand nous aimons les autres, quand nous apprenons à les connaître, quand nous leur témoignons de l'affection, eh bien, on veut aussi qu'ils connaissent Dieu pour être sauvés, eux aussi. Parce que c'est ça la chose la plus importante, être en paix avec Dieu, être réconcilié avec son Créateur. Et ça, ce n'est pas les prérogatives des évangélistes ou des prédicateurs ou des missionnaires. Dieu nous a tous placés dans des contextes différents, ici, dans cette salle. On croise des gens à l'école de nos enfants, dans notre salle de sport. On croise des gens dans la rue, dans les commerces que l'on fréquente, dans notre quartier, dans les maisons qui sont autour de nous. Et c'est d'abord vers ces gens-là que Jésus nous envoie. Et là aussi, il ne faut pas s'imaginer que ça soit nécessairement compliqué. L'homme le plus puissant que j'ai rencontré au niveau de son témoignage, c'était quelqu'un qui ne savait pas parler en région parisienne. On avait un ami, il avait un très très gros impact auprès de ses propres amis. Pourquoi ? Quel était son don ? Il savait se faire des amis. Il savait bichonner ses amis et entretenir les amitiés. Il ouvrait largement son appartement. Il invitait sans arrêt. Les gens et ses amis étaient heureux d'être avec lui. Il savait entretenir l'amitié. Et je vous garantis que quand lui, il invitait ses amis à l'église ou à une manifestation particulière ou à un endroit où on allait pouvoir entendre parler de Jésus, ses amis lui disaient jamais non. Il venait par amitié pour lui, juste par amitié pour lui. Et puis, je voudrais vous donner quelques exemples de comment on peut faire aussi. Juste quelques idées, hein, comme ça. Des choses qui ne sont pas très compliquées. Le point commun à toutes ces idées, c'est la Bible. Parce que, en fait, la puissance, elle n'est pas en nous, elle est dans la Bible. C'est la Bible qui est puissante. Lorsque le Saint-Esprit vient s'emparer de cette parole de Dieu et qu'elle fait croître quelque chose en nous. Lire la Bible et prier, c'est le point commun à toutes ces idées. On peut le faire à la maison. On peut lire la Bible avec nos enfants, avec notre femme, avec notre mari, avec nos parents. On peut donner du contenu biblique à nos repas. Si on ne peut pas lire la Bible, on peut parler de la Bible, parler de Jésus ouvertement. On peut le faire à l'église. À l'église, on peut accompagner d'autres personnes. On peut s'encourager mutuellement dans les PPP. Pain, je ne sais jamais en fait. Pain, partage, pain, prière. Ok. Pain, partage, parole. D'accord. Pain, partage, parole. En gros, vous vous rassemblez chez quelqu'un et vous partagez tout ça et vous ressortez encouragé, quoi. C'est super. Si vous avez un don pour l'enseignement, mettez-le aussi en œuvre. Vous pouvez participer à plein de choses lors des cultes. Et puis en dehors de l'église. En dehors de l'église, eh bien vous pouvez inviter au parcours Alpha. Vous pouvez témoigner autour de vous, à vos amis. Vous pouvez comme je disais tout à l'heure, bichonner vos amis, les inviter, leur témoigner de l'affection. Leur offrir une Bible, leur offrir un livre, un tract qui peut peut-être, à un moment ou un autre, les interpeller et changer leur vie. Et puis, par rapport au témoignage, pas besoin d'être un évangéliste ou pas besoin d'avoir fait de la théologie. Quand on parle de témoignage, il est question de quoi ? Il est question juste de dire ce que vous avez vécu. Ça, personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut contrer votre témoignage. C'est votre ressenti, c'est votre vie. Il est juste à accepter tel qu'il est. Et souvent, les témoignages sont bouleversants. Hier, le groupe de jeunes a été invité à une soirée surprise chez Marie-Jeanne et Bruno Sébron. Et Marie-Jeanne et Bruno ont témoigné au groupe de jeunes. Et on a été impressionnés par la force de ce que Jésus a fait dans leur vie et comment leur vie a été impactée par la présence de Dieu. Voilà, tout simplement, quelques idées comme ça en vrac de ce que l'on peut faire. Il nous faut être libérés par rapport à la question du témoignage. Juste découvrir la joie de transmettre cette bonne nouvelle de Jésus. Saisir les occasions qui se présentent. Et pas craindre l'échec. L'échec, ce n'est pas de ne pas y arriver. L'échec, ce serait plutôt même de ne pas essayer, tout simplement. Vous n'êtes pas responsable de comment les autres vont percevoir ce que vous allez dire. Vous n'êtes pas responsable de ça. Allez et faites des disciples parmi toutes les nations. Baptisez-les et enseignez-leur à obéir ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse de Jésus, elle est pour nous. L'Église, depuis toujours, l'Église, elle est une colonne qui proclame la vérité au monde. Une colonne qui soutient et qui défend cette vérité. À savoir que Jésus, notre Sauveur, il est aussi notre Roi. Et qu'il mérite notre adoration. Il est digne d'adoration, notre Roi. Amen.